VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du jeudi 23 janvier 2020. En direct de Washington, Idrissa Sedounia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Réunion aujourd'hui en Algérie des chefs de la diplomatie des pays voisins de la Libye.
Au Mali, c'est le 29 mars qu'aura lieu le premier tour des législatives reporté depuis 2018.
Au Nigeria, mise en place de mesures strictes face au nouveau coronavirus qui continue sa progression en Chine.
Ici à Washington, au procès en destitution du président Donald Trump, ce dernier a été accusé hier d'avoir mis en œuvre un schéma corrompu pour favoriser ses chances de réélection en novembre prochain.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
L'Algérie accueille aujourd'hui une réunion des chefs de la diplomatie des pays voisins de la Libye. Les réunions sur la Libye se sont multipliées depuis que la Turquie a décidé d'envoyer des troupes pour soutenir le gouvernement d'union nationale combattu par le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. Le point avec Eric Manirakidza.
Les ministres des Affaires étrangères de l'Algérie, de la Tunisie, d'Égypte, du Soudan, du Tchad et du Niger sont invités à cette réunion qui s'ouvre ce matin à Alger. Le Mali doit aussi participer à cette rencontre. Dimanche, lors du sommet de Berlin, le président Abdelmadjid Tebboune avait proposé d'héberger un dialogue inclusif entre les parties libyennes. Plusieurs pays africains s'étaient plaints d'avoir été tenus à l'écart du processus dit de Berlin. Les deux rivaux, Faiz al-Sarraj et Khalifa Haftar, ont refusé de se rencontrer. Partageant près de 1000 km de frontières avec la Libye, l'Algérie a reçu mardi le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian après le premier ministre italien Giuseppe Conte. Le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas est lui aussi attendu à Alger. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui soutient le GNA, effectue dimanche à Alger une visite de 2 jours. Ankara et Moscou ont appelé à un cessez-le-feu entré en vigueur le 12 janvier, mais les belligérants s'accusent mutuellement de violation de la trêve.
Au Mali, le gouvernement a fixé au 29 mars prochain le premier tour des législatives et le second au 19 avril. Ces élections doivent permettre le remplacement de l'actuel Parlement de 147 députés dont le mandat a pris fin depuis décembre 2018. Les détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
L'Assemblée nationale du Mali est à sa deuxième prorogation de mandat. Celle-ci doit prendre fin le 2 mai 2020. Avant cette date, le gouvernement doit organiser de nouvelles élections législatives en vue de remplacer les députés actuels. C'est ainsi que le collège électoral est convoqué le dimanche 29 mars 2020 sur l'ensemble du territoire national. Cela afin de procéder à l'élection des députés de l'Assemblée nationale. Un second tour du scrutin a lieu le dimanche 19 avril 2020 dans les circonscriptions où aucun candidat ou liste de candidats n'obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour.
Ça va nous permettre d'avoir encore des institutions renforcées, des institutions crédibles et avec aux yeux des partenaires et qui pourra vraiment permettre au Mali encore de s'éloigner petit à petit de cette crise que nous avons vécue.
La campagne électorale à l'occasion du premier tour de l'élection des députés à l'Assemblée nationale est ouverte le dimanche 8 mars à partir de 0h. Elle est close le vendredi 27 mars à minuit. Pour ceux qui aident la campagne électorale pour le second tour, elle est ouverte le lendemain de la proclamation des résultats définitifs du premier tour. Elle est close le vendredi 17 avril 2020 à minuit. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Guinée-Bissau, la CDAO a adressé mercredi ses félicitations à Oumarou Sissoko Embalo, candidat arrivé en tête de la présidentielle dans ce pays. Sa victoire reste contestée par son rival, Domingos Simões Pereira, du parti dominant PAIGC, plus de 3 semaines après le second tour. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest n'a pas répondu dans un premier temps à l'AFP qui lui demandait si son communiqué équivalait à une reconnaissance officielle de la victoire de M. Embalo.
Le Nigeria a annoncé hier la mise en place de mesures strictes pour empêcher toute propagation du nouveau coronavirus qui continue sa progression en Chine, pays où de nombreux Nigérians voyagent pour les affaires. Irénée Herman Umbo.
Les services des aéroports et le personnel du ministère de la Santé nigérian ont été alertés et ont renforcé leurs mesures de surveillance, a indiqué le Centre fédéral de contrôle des maladies. Les voyageurs seront soumis à de nombreuses questions à leur arrivée. Le virus de la famille du SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, apparu en décembre dernier à Wuhan, dans le centre de la Chine, a fait 17 morts et infecté des centaines de personnes. Un premier cas a été recensé aux États-Unis, un homme résident près de Seattle. Hong Kong a aussi signalé son premier cas suspect, mais le résultat des tests sera connu aujourd'hui. Mercredi, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a averti qu'une nouvelle propagation est probable. Les autorités britanniques et italiennes ont également annoncé des mesures de surveillance des passagers en provenance de Wuhan. L'OMS a entamé hier une réunion d'urgence qui a été prolongée d'une journée.
En Chine même, les autorités ont mis de facto en quarantaine à compter de ce jeudi, la métropole de Wuhan au cœur de l'épidémie. Plus aucun train ou avion ne doit en principe quitter la cité de 11 millions d'habitants.
Le Maroc a intégré mercredi les eaux du Sahara occidental à son espace maritime en votant deux lois qui renforcent sa tutelle sur cette ancienne colonie espagnole au statut toujours indéfini. Ces lois, à ce sujet, ont été votées à l'unanimité par les députés dans une déclaration écrite à l'AFP reçue à Alger. Le Front Polisario, qui réclame l'indépendance du Sahara occidental, a estimé que la décision du Maroc n'aurait aucun effet légal et a menacé de saisir le Tribunal international du droit de la mer.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, les procureurs démocrates au procès en destitution du président républicain Donald Trump ont accusé hier ce dernier d'avoir mis en œuvre un schéma corrompu pour faire pression sur l'Ukraine afin de favoriser ses chances de réélection en novembre prochain. Compte rendu de Jean-Roger Bion.
Dans une déclaration d'introduction devant le Sénat où se déroule le procès, Adam Schiff, qui dirige l'équipe des 7 élus démocrates de la Chambre des représentants chargée de l'accusation, a affirmé que Donald Trump avait poussé son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à enquêter sur des faits non corroborés de corruption visant l'ancien vice-président Joe Biden, candidat à l'investiture du Parti démocrate pour l'élection du 3 novembre, et son fils Hunter. Rien n'aurait pu être plus dangereux pour une démocratie qu'un chef suprême convaincu qu'il pouvait opérer en toute impunité sans avoir à rendre compte, rien si ce n'est un Congrès disposé à ce qu'il en soit ainsi, a insisté M. Schiff. M. Trump et le camp présidentiel refusent toute malversation. Les règles encadrant ce procès exceptionnel que dirige le président de la Cour suprême, John Roberts, accordent 3 jours à l'accusation pour présenter ses arguments. La défense disposera d'un délai identique et le procès pourrait s'achever dès la semaine prochaine. Les sénateurs qui font office de jurés auront ensuite 16 heures pour poser leurs questions par écrit. Un premier vote est attendu en fin de semaine prochaine. Les sénateurs devront décider s'ils acceptent de convoquer de nouveaux témoins, comme le réclament les démocrates.
Et pendant ce temps, au sommet économique de Davos, le président Trump a essayé de mettre l'accent sur les questions commerciales et les succès de sa politique économique lors d'une conférence de presse arrangée hier à la dernière minute, peu avant de quitter la Suisse pour les États-Unis. De nouveau, Jean-Roger Bion.
Apparaissant avec Roberto Azevedo, le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, M. Trump a souligné ses efforts en faveur d'une réforme des règles commerciales. Il a encore accusé l'OMC d'avoir été, je cite, « très injuste » avec les États-Unis pendant des années et des années. En ce qui le concerne, M. Azevedo a reconnu la nécessité d'une mise à jour et de réforme. Des officiels de l'organisation sont attendus à Washington la semaine prochaine pour discuter de ce que M. Trump a appelé une réforme drastique de l'OMC. Le président américain a par ailleurs menacé à nouveau l'Union européenne de taxes douanières punitives de 25% sur les voitures en l'absence d'un accord commercial.
Les présidents russes et français Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, le vice-président américain Mike Pence, le prince Charles, en Israël, qui accueille ce jeudi une quarantaine de dirigeants pour marquer le 75e anniversaire de la libération du camp nazi d'Auschwitz par l'armée rouge et faire front commun contre l'antisémitisme.
La Cour internationale de justice se prononce pour la première fois ce jeudi sur la demande de mesures d'urgence formulée par la Gambie pour protéger les Rohingyas. De nouvelles exactions de l'armée birmane. Cette dernière est accusée de génocide à l'encontre de cette minorité musulmane. Il y a quelques jours, une commission mandatée par le gouvernement birman a conclu que quelques militaires avaient bien commis des crimes de guerre envers les Rohingyas, mais que l'armée n'était pas coupable de génocide. Depuis août 2017, environ 740 000 Rohingyas se sont réfugiés au Bangladesh pour fuir les exactions de militaires birmans et de milices bouddhistes. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nani Talani.
Le Libéria fait face à une inflation d'environ 30% selon la Banque mondiale. Les fonctionnaires ne touchent pas régulièrement leur salaire. Le président George Weah lance un appel à la patience et demande un soutien résolu à ses concitoyens au moment où son pays est aux prises avec cette inflation galopante. Le Maroc intègre les eaux du Sahara occidental dans son espace maritime en adoptant deux lois qui renforcent la tutelle marocaine sur cette ancienne colonie espagnole au statut toujours indéfini. Le Maroc veut une autonomie sous contrôle pour la zone qu'il considère comme sienne, alors que le Polisario réclame l'autodétermination. La France, l'Allemagne et plusieurs fondations s'allient à l'investisseur américain BlackRock pour soutenir des projets liés au climat dans les pays en voie de développement. Le premier objectif est fixé à 500 millions de dollars, selon l'annonce faite mercredi en marge du Forum économique mondial. Au moins 25% de ces fonds cibleront en priorité des investissements de développement en Afrique.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Nouvelle victoire érythréenne hier à la Tropical Amissa Bongo.
Oui, elle est l'œuvre de Biniam Aïlou Djirmé. L'Érythréen a remporté la troisième étape de l'épreuve courue entre Medzik et Ndjolé, 186 km. Il s'est imposé avec une vitesse moyenne de 43,50 km/h, devançant les Français Jordan Levasseur et Emmanuel Morin. Au classement général, le maillot de leader reste sur les épaules de Nathanaël Tesfazion, vainqueur de la deuxième étape mardi. Il possède 4 secondes d'avance sur Levasseur et 9 sur Morin. La Tropicale 2020 se poursuit aujourd'hui avec l'étape 4 entre Lambaréné et Mouila, 190 km.
Le Zamalek disputera la Supercoupe d'Afrique au Qatar.
Le Zamalek a finalement confirmé le déplacement du Qatar pour disputer la finale de la Supercoupe d'Afrique. Ce match opposera les Égyptiens à l'Espérance sportive de Tunis le 14 février à Doha. Le Zamalek avait dans un premier temps annoncé son refus de disputer cette finale au Qatar à cause des tensions politiques entre le Qatar et l'Égypte qui ont rompu leurs relations depuis 2017. Initialement prévue en octobre dernier, la Supercoupe d'Afrique a été reportée en raison de la polémique créée par la fameuse finale de la Ligue des Champions entre l'Espérance de Tunis et le Wydad Casablanca.
Michel Platini devient conseiller au syndicat mondial des joueurs.
L'ancien président de l'UEFA est devenu le conseiller personnel de Philippe Piat, président de la FIFA Pro, entendait le syndicat mondial des joueurs. Michel Platini amorce ainsi son retour qu'il a toujours laissé entendre après qu'il a fini de purger en octobre une suspension de 4 ans de toute activité liée au football. Il a été sanctionné pour avoir perçu un paiement sans contrat écrit et tardif de 2 millions de francs suisses de la part de Sepp Blatter, alors président de la FIFA. Président de l'UEFA entre 2007 et 2015, Platini s'apprêtait à succéder à Blatter à la tête de la FIFA quand une affaire de gros sous a précipité sa chute.
Des nouvelles du marché des transferts.
Le Sénégalais Moussa Kone, formé à l'AS Dakar Sacré-Cœur, qui évoluait au Dynamo Dresde en 2-2 allemande, a paraffé un bail de 2 saisons et demie avec Nîmes. Il est lié au club français jusqu'en juin 2023 contre un montant de transfert estimé à 3 millions d'euros. Après la France et l'Arabie Saoudite, l'attaquant tunisien Franck Eredine Ben Youssef va rejoindre le championnat égyptien où il portera le maillot d'Al Ismaili pour un contrat portant sur 2 saisons. Pour sa part, le milieu marocain de Feyenoord Rotterdam Yassine Ayoub, 25 ans, a signé un contrat de 3 saisons et demie avec le Panathinaikos, actuel 4e du championnat grec. Basketball, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Quelques-uns des principaux matchs, Los Angeles Lakers et New York 100 à 92, Los Angeles Clippers et Atlanta Hawks, surprise avec la victoire des Hawks, 102 à 95. Toronto et Philadelphie, 107 à 95. Houston et Denver, 121 à 105.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, un agent de santé congolais, pourtant vacciné contre la maladie à virus Ebola, a été contaminé par le virus de la fièvre hémorragique dans l'est du pays. L'agent avait reçu une dose du premier vaccin utilisé depuis août 2018, c'est-à-dire le RVSV de Merck. Eddy Sango a joint à Kinshasa le coordonnateur de la cellule technique nationale de la lutte contre Ebola, le directeur de l'Institut national des recherches biomédicales, le docteur Jean-Jacques Mouyembe.
Le vaccin RVSV, pour être actif, il faut au moins 8 à 10 jours. Donc, on vous injecte aujourd'hui le vaccin, mais le vaccin ne sera efficace que dans 10 jours. Si, entre-temps, avant les 10 jours, vous entrez en contact avec un malade Ebola, eh bien, vous pouvez développer donc la maladie. Vous comprenez? Ça, il faut vraiment qu'on ait les informations exactes, parce que si on n'a pas l'information exacte de la date de la vaccination, on peut incriminer le vaccin inutilement.
Il se pose alors un peu la question sur l'efficacité de ces vaccins qui sont utilisés à titre expérimental. Vous-même, vous avez, je ne sais pas, hier ou avant-hier, eu la seconde dose. Est-ce que c'est pour cela qu'on doit avoir une autre dose?
Oui, ça c'est le vaccin Johnson & Johnson. Le vaccin Johnson & Johnson, ça s'est fait en deux doses. Moi, j'avais reçu la première dose et il y a deux jours, j'étais à Goma, j'ai reçu la deuxième dose. Alors, l'efficacité du vaccin, on a testé le vaccin RVSV de Merck. C'est un vaccin efficace à 97%. Et donc, c'est un très bon vaccin. Et ce vaccin a été déjà homologué. C'est un vaccin homologué.
Je sais que vous avez eu le Johnson & Johnson, mais quelqu'un qui a reçu le premier pour mieux se protéger, doit-il avoir soit une seconde dose ou alors, en plus du RVSV, le Johnson & Johnson?
Non, le Johnson & Johnson, il faut deux doses. Mais le RVSV, une seule dose. Le RVSV est donné dans les endroits où il y a l'épidémie, donc dans les zones épidémiques, Beni, Mangina, etc. Tandis que le Johnson & Johnson est donné dans les zones non épidémiques.
Aujourd'hui, on parle encore de quelques cas d'Ebola qui ressurgissent après une certaine accalmie. Y a-t-il espoir que d'ici quelques mois, qu'on puisse finalement mettre fin à l'épidémie qui sévit dans l'est de la RDC?
Les cas qui surgissent là, nous les contrôlons bien parce qu'on connaît bien les chaînes de transmission. Et si ces chaînes de transmission sont bien suivies, il y a beaucoup d'espoir que l'épidémie soit vite terminée. Notre crainte, c'est simplement d'avoir, de ne pas avoir l'incident sécuritaire pendant ce mois de février-mars. Vraiment, nous prions pour qu'on n'ait pas d'incident sécuritaire. S'il n'y a pas d'incident sécuritaire, il y a beaucoup de chances que nous puissions contrôler cette épidémie d'ici un mois ou deux.
Dans quel état est cet agent qui avait été vacciné et qui a contracté le virus? Quelqu'un qui a été vacciné, qui contracte la maladie, est-ce que ce n'est pas très compliqué les traitements pour qu'ils guérissent?
Non. Il y en a qui étaient vaccinés et qui ont reçu aussi les traitements et ils sont guéris.
Le docteur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur de la cellule technique nationale de la lutte contre Ebola et directeur de l'Institut national des recherches biomédicales à Kinshasa.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Burundi, l'Assemblée nationale a adopté un projet de loi qui accorde un parachute doré à tout ancien président élu au suffrage universel à 4 mois de la présidentielle à laquelle Pierre Nkurunziza a dit ne pas se présenter. La nouvelle loi prévoit que l'ex-président bénéficie d'une villa de très haut standing construite sur les fonds publics ainsi que d'une allocation unique de 1 milliard de francs burundais. Il recevra les mêmes traitements que le vice-président en exercice durant les 7 premières années et bénéficiera ensuite à vie d'une indemnité égale aux émoluments d'un député. Pour une réaction, Nathalie Barge a joint Arlette de la diaspora burundaise en Belgique qui souhaite garder l'anonymat.
Ce projet de loi est une aberration parce que dire que le président Nkurunziza a été élu au suffrage universel, c'est vouloir occulter aussi qu'il a voulu briguer un troisième mandat qui était illégal et anticonstitutionnel. Donc sur ce fait-là, c'est une manière de se protéger, contre quoi je ne saurais pas répondre, mais c'est aussi une manière d'exclure d'autres présidents, parce que même si, peu importe la manière dont ils ont accédé au pouvoir, dans la constitution burundaise, il y avait un article qui consistait au sort qu'on réservait aux anciens présidents. Donc, ça veut dire que c'est enlever le statut d'ancien président aussi, alors qu'on devrait normalement penser à toutes ces personnes qui ont occupé des hautes fonctions comme les présidents et qui méritent une certaine considération, mais qui n'est pas aussi exagérée comme ce projet de loi le présente aujourd'hui.
Alors, que pensez-vous de ces avantages, hein, si l'on tient compte notamment du niveau de vie des populations subissant la crise?
Ça ne fait que consolider la réflexion des personnes qui disent que c'est un président qui ne réalise pas, qui ne veut pas voir la situation réelle dans laquelle la population burundaise vit chaque jour, parce qu'il y a une insécurité alimentaire criante et il y a aussi des gens qui croupissent dans les camps de réfugiés à l'extérieur du pays, qui voudraient bien rentrer. Et le Burundi fait partie des 5 premiers pays les plus pauvres du monde. Il y a beaucoup d'enfants qui ne vont plus à l'école parce que manque d'infrastructures. C'est une décision vraiment aberrante.
Cette mesure confirme-t-elle que Pierre Nkurunziza ne se représentera pas à la présidentielle comme il l'avait annoncé? À ce niveau-là, comment voyez-vous justement ce nouveau développement?
C'est trop m'avancer pour dire qu'il ne se représentera pas. S'il ne se représente pas, ça sera peut-être en face. Parce qu'il va garder tout, c'est vrai, tous les honneurs qui sont équivalents aux honneurs du vice-président. Donc ça veut dire que quelque part, est-ce que réellement il va partir ou il veut toujours garder sa main mise sur la personne qui va le succéder?
Arlette de la diaspora burundaise en Belgique, elle a souhaité garder l'anonymat.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Réaction au Burkina Faso après le vote de la nouvelle loi en faveur du recrutement des volontaires pour lutter contre le terrorisme dans le pays. Cette loi, qui a été adoptée mardi par le Parlement, permet à des civils d'être armés et formés pour contribuer à la lutte contre le terrorisme. Mais le pays a déjà des groupes d'autodéfense appelés Kogluego. Que pensent justement ces Kogluego? Vont-ils se soumettre aux nouvelles dispositions? Bagassi Koura a joint à Mako Niaïdougou, dans son champ de culture, Boukari Kabore dit le lion. Il est l'un des commandants du groupe d'autodéfense.
Je ne vois pas trop comment est-ce que ça va se réaliser. J'attends de voir. Parce que je ne sais pas pourquoi. Bon, quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on a déjà des structures qui existent. Je ne sais pas exactement pourquoi ne pas directement faire fonctionner ces structures-là en corrigeant justement les erreurs qu'il y en a.
Vous parlez de quelles structures? Des Kogluego notamment?
Notamment le Kogluego. Le monde entier a entendu parler justement de la question de Kogluego. Et le Kogluego est tellement efficace au Burkina. Bon, je ne sais pas pourquoi alors on ne normalise pas.
Mais souvent aussi, on a entendu qu'ils ont été accusés d'avoir commis des exactions.
Non, mais écoutez là, on ne peut pas travailler sans erreur. Hein. Mais si vous êtes sur place ici, vous allez vous rendre compte que c'est tellement positif que personne ne peut contredire ça. Mais là aussi, c'est le peuple là. C'est-à-dire, ces structures-là sont mises en place par le peuple qui prend ses responsabilités pour sa propre sécurité. Mais je ne sais pas, ceux qui votent les lois là, est-ce qu'ils savent que le peuple est légitime?
Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour les Kogluego d'avoir un cadre juridique? d'aller se faire enrôler.
Non, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils veulent tuer cette structure-là.
Vous pensez que vos hommes ne vont donc pas accepter ces nouvelles mesures-là qui vont réorganiser le volontariat?
Non, mais la menace, ça n'a rien à voir avec le Corloéro. Parce que bon, la menace, c'est une mesure, c'est-à-dire qu'on est en train de prendre une loi. Ils veulent créer une structure qui va venir trouver justement le Corloéro.
Peut-être les Corloéro vont se dissoudre et aller rejoindre ces nouvelles structures.
Non, moi, ça m'étonnerait. Parce que ça ne répond pas là. C'est le pouvoir qui met en place, alors que de l'autre côté, c'est le peuple légitime là qui met en place. Et les gens, ils veulent être indépendants. Ils sont jaloux. Mais il est question maintenant de sécurité. Maintenant, les gens savent qu'on vu que vraiment l'État n'arrive pas à subvenir à leurs besoins. Et les gens se sont organisés et ça marche très bien. Mais alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on reproche au Corloéro? Pourquoi ils ne veulent pas?
Parce que les attaques continuent à travers le pays.
Vraiment, c'est malheureux, hein, mais finalement, c'est ça. Hein. Je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas normaliser, ils parlent de volontariat. Ces volontaires-là, ils seront payés. Ils seront encadrés comment? Ils seront où? Voilà une structure qui vient et qui va maintenant imposer encore des dépenses à l'État. Moi, je ne sais pas, comment est-ce qu'on va gérer ça? Alors que le Corloéro, non. Les gens s'organisent, le village s'organise déjà. Les villages sont déjà organisés et font le travail exactement de sécurité et coopèrent avec la gendarmerie et la police.
Joint au Burkina Faso, Boukari Kabore dit le lion, l'un des commandants d'un groupe d'autodéfense.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Après le récent sommet de Pau en France entre le président Emmanuel Macron et ses homologues du G5 Sahel, le sentiment anti-français grandissant dans la région et l'annonce sur le Français EFA et l'écho, le débat est clairement engagé à nouveau sur les relations entre la France et ses anciennes colonies. Joint par Idriss Fall, l'écrivain guinéen Thierno Monenembo.
La présence française en Afrique résume sur la colonisation. Cette nature coloniale n'a pas fondamentalement changé depuis les indépendances. Les relations se restent forcément coloniales. Il n'a été modifié dans ce sens-là. Tout le monde le sait. Et personne le dit. Ce qu'on appelle aussi la coopération, on appelle la France-Afrique, ce sont des mots. Ce sont des mots, c'est simplement pour enrober un peu la même politique qui est là depuis très longtemps. Ce qui est extraordinaire, c'est que malgré l'arrivée de la gauche, si c'était à nous, africains, africains de gauche, c'est un très fort espoir, même cette religion, rien n'a changé. Même Macron n'a pas l'intention, apparemment, d'y changer quoi que ce soit. Quelque chose de terrible, ça ne peut pas continuer comme ça.
Mais la France est là pour aider à la lutte contre le terrorisme.
Certainement, pays comme le Mali, comme le Niger, comme le Burkina, dans les conditions actuelles, ne sont pas jamais. Parce que certains, la présence française, pour lui, effectivement, aider. La France aurait pu être un allié des Africains contre le terrorisme. Comment est-ce que vous voulez faire un ennemi général du monde d'aujourd'hui? Mais ce n'est pas dans ces conditions-là. La France est présente au Mali depuis combien de temps? Est-ce que les djihadistes ont été bloqués? Est-ce que le terrorisme est arrivé? Non, le terrorisme est encore plus loin qu'avant, à la limite.
Et sur un autre plan, le France CFA, le débat est engagé, que pensez-vous?
Le France CFA, franchement, la monnaie est un attribut de souveraineté nationale. Je ne souhaiterais pas du tout que la Guinée fasse partie de la Guinée. Courage et même l'intelligence de choisir de nous faire notre propre monnaie depuis l'indépendance, c'est pas une monnaie forte. Une monnaie forte, c'est pas grave. Ça compte beaucoup d'aléas économiques dans le quotidien. Mais je préfère ça. C'est notre monnaie, même si c'est favorable à un changement de nom. Au lieu de dire le franc guinéen, on aurait pu lui donner un autre nom. Parce que le franc, c'est la France d'abord et avant tout. C'est pas la Guinée. Le franc guinéen, ça ne veut pas dire quelque chose.
Est-ce que vous donnez raison à Sékou Touré alors?
Mais c'est pas à Sékou Touré qui a eu raison. C'est le peuple de Guinée. Il faut que les intérêts africains servent. Ce n'est pas Sékou Touré qui a fait l'indépendance du Guinée. C'est le Guinéen. C'est le peuple de Guinée dans son ensemble. À 94% qui a voté non. Vous savez qu'en Guinée, il n'y a pas un seul parti politique qui a pu voter non. Pas un seul. Il y a une légende qu'il faut gommer maintenant, dans une occasion. Ce n'est pas un pays qui a voté pour le Saint-Fécal. C'est trois pays. C'est la Guinée, le Niger et Djibouti. Au Niger et à Djibouti, on a pu saboter l'indépendance parce qu'il n'y avait pas de qui a pu voter non. Ils ont utilisé comme ce qui avait pu voter non. En Guinée, tout le monde a pu voter non. Que les quatre partis politiques, Baritoua, l'ambassade, Sékou Touré, ils ont tous appris à voter non. Il s'est fait d'être le dernier à le faire, et il a fait le 14 septembre, c'est-à-dire 14 jours avant de voir. Il n'y avait pas là, il n'y avait pas Sékou Touré.
L'écrivain guinéen Thierno Monenembo.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, après l'étape de la composition des équipes et les prestations de serment, le procès en destitution du président Donald Trump entre cette semaine dans une étape historique. celle du lancement des débats au Sénat dominés par les Républicains. Ce procès est le troisième de ce genre dans l'histoire des États-Unis. Quelles sont les implications politiques de ce procès? Aura-t-il un impact sur les élections de novembre? Nous allons évoquer tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.